Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
Eh bien, chers amis auditeurs de Radio Immo, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition du confort dans l'habitat avec Promotelec, aujourd'hui consacrée à la sécurité des installations électriques existantes dans le logement. Alors, à tout seigneur, tout honneur, mon invité permanent Dominique Desmoulins, bonjour.
Oui, bonjour.
Et je suis très heureux d'accueillir Serge Contat, directeur général de la régie immobilière de la ville de Paris.
Bonjour. Bonjour Serge.
Et Jean-Marc Taurelion, président de la FNAIM, un habitué des lieux de Radio Immo.
Bonjour.
Donc, sécurité des installations électriques des logements existants, tous concernés, c'est dans un instant sur Radio Immo.
Le confort dans l'habitat, parole à Dominique Desmoulins, directeur général de Promotelec.
Dominique Desmoulins, lorsqu'on parle d'installations électriques existantes dans le logement, on a des éléments de contenu sur la sinistralité ?
Alors évidemment, pourquoi on parle de ce sujet-là aujourd'hui ? Il y a une raison très simple, c'est qu'en France, il y a environ 200 000 incendies par an, et là-dessus, 50 000 sont d'origine électrique. C'est-à-dire qu'on a 25% des incendies en France qui sont de source électrique. Ce sont des chiffres de l'Observatoire national de la sécurité électrique. Et donc, pour éviter ça, eh bien, il faut prendre un certain nombre de mesures, en particulier sur la sécurité électrique.
Eh bien, nous allons en débattre tout au long de cette émission avec nos invités, Serge Contat et Jean-Marc Taurelion.
Le confort dans l'habitat, l'invité.
Peut-être avant d'échanger avec Serge et Jean-Marc, Dominique Desmoulins, est-ce qu'on pourrait rappeler quelles sont les exigences légales sur un logement lorsqu'il est existant au regard de son installation électrique ?
Alors la règle s'applique pour tous les logements qui ont plus de 15 ans en fait, puisqu'il y a un diagnostic électrique obligatoire depuis janvier. Pour l'ensemble des logements qui rend obligatoire ce diagnostic à faire lorsque soit on le vend, mais ça c'est depuis plus longtemps, soit pour les propriétaires bailleurs pour lesquels dès la location on doit fournir ce diagnostic qui lui-même permet de voir si la qualité de l'installation est conforme à une certaine règle et non pas à une norme forcément.
D'accord. Cette règle, est-ce qu'on la rappelle en quelques mots, les exigences techniques de façon très simple et très rapide sur une installation électrique en sécurité, les 6 exigences ?
La difficulté, c'est de ne pas confondre la conformité et la mise en sécurité. La conformité, c'est par rapport à une norme, la C1500, connue par l'ensemble des électriciens. Et nous, on parlera simplement de mise en sécurité, c'est-à-dire qu'on doit respecter 6 points qui vont du disjoncteur au fait que les câbles sont bien recouverts et puis à l'ancienneté du matériel.
D'accord. Donc, ces 6 exigences techniques, pour être tout à fait précis, exhaustif, un appareil général de coupure et de protection qui coupe l'ensemble de l'installation. Une installation différentielle adaptée aux conditions de mise à la terre, on n'entrera pas dans le détail aujourd'hui. Une protection contre les surintensités à l'origine de chaque circuit. Les règles de sécurité dans la salle de bain inhérentes aux zones de sécurité et puis une liaison équipotentielle supplémentaire. Ne pas avoir de matériel vétuste ou inadapté à l'usage. Et puis effectivement, comme vous le disiez, la protection des conducteurs. Alors Serge Contat, lorsqu'on parle de bailleurs, vous êtes pleinement concerné, vous êtes... bailleur, acteur de vos propres travaux. En préambule, la régie immobilière de la ville de Paris, ça représente aujourd'hui combien de logements ?
Donc la RIVP, c'est environ 60 000 logements, une très grande diversité de logements, des logements spécifiques, étudiants, jeunes travailleurs, beaucoup de logements qui ont un statut social, mais toute la gamme du très social jusqu'au logement intermédiaire.
D'accord. Un âge moyen de ce parc ?
Alors, la RIVP a commencé à construire des logements juste après la Première Guerre mondiale, en 1923. C'est historiquement une foncière de logements intermédiaires qui a reconstruit des logements intermédiaires tout autour de Paris et avec une affirmation forte de bailleur social depuis quelques années. Donc, tous les types, toutes les constructions, on a un âge moyen de logement. Donc les premiers depuis 1923, on a à peu près une bonne trentaine d'années d'âge moyen de nos constructions. Donc évidemment, en matière électrique, tous les types d'installations, jusqu'aux toutes dernières respectant la norme NFC 1500, jusqu'à des installations encore assez vétustes.
D'accord. Alors ce dispositif dont parlait Dominique Desmoulins tout à l'heure, qui impose un diagnostic électrique obligatoire à la mise à la location, vous avez été directement impacté.
Alors, on a oui et non, parce que nous avions déjà pris à bras le corps le sujet, même avant les obligations réglementaires. Donc aujourd'hui, nous sommes totalement mis en état de marche, parce que nous avons élaboré vraiment un plan cohérent de mise en sécurité, qui est très important pour nos locataires. On y consacre à peu près 20% de nos investissements, donc avec les points qui ont été rappelés. Donc systématiquement maintenant un diagnostic, avec des travaux variés, soit mise en sécurité, soit mise aux normes dans un certain nombre de cas à chaque relocation, bien entendu. Dès que nous faisons des travaux, des réhabilitations importantes, là, nous avons des actions plus structurées, indépendamment de la relation, de la rotation, pardon, des logements. Je confirme tout à fait, d'ailleurs, les chiffres que vous évoquiez, hein, sur les sinistralités, puisque sur 60 000 logements, on peut observer de la sinistralité. Et alors, c'est un peu variable selon les années, mais c'est un point que nous travaillons chaque année. Et chaque année, d'ailleurs, autour de ces installations techniques, nous faisons également beaucoup de communication auprès de nos locataires, à la fois sur... alors, pour la partie installation, c'est nous. Et puis, il y a toute une partie aussi comportement, qui est effectivement très importante et que nous menons d'ailleurs avec... avec Promotelec, avec Consuel, pour cette action de sensibilisation très importante. C'est à peu près 20% de nos investissements, en fait, quand on fait une remise en état de logement. Bon, c'est à la fois beaucoup, mais ça reste tout à fait raisonnable et très, en fait, très, très important pour la sécurité de nos locataires.
Oui, effectivement, le prérequis, c'est que l'installation elle-même soit en sécurité. Mais une installation en sécurité ne permet pas d'éviter des mauvais comportements, et c'est aussi quelque chose qui est important par rapport à la sinistralité.
Oui, c'est aussi très important, hein, le nombre de prises électriques, les rallonges utilisées, etc. Donc, et on en profite d'ailleurs à chaque remise en état de logement, plus des campagnes spécifiques, pour bien insister aussi sur l'aspect comportement pour nos locataires. Mais encore une fois... J'évoquais 1923 pour la construction de nos immeubles. On est en train d'achever d'ailleurs sur les parties communes la mise en sécurité de toutes les installations montantes. Et maintenant, nous avons donc une action. Donc chaque année, ça représente à peu près 2500 logements, hein, la rotation dans le parc. Et donc à peu près donc à la sécurité électrique, on y consacre à peu près 10-15% des travaux de remise en état entre deux locataires. Alors chez nous, les locataires restent très très longtemps. Hein. Le taux de rotation, c'est 4%. Quand on enlève les locataires qui partent pour des raisons mobilité professionnelle un peu obligées, je pense aux jeunes policiers qui souvent ont envie de repartir dans le sud-ouest,
dans leur terre.
Autour de Grenoble pour faire du ski. Voilà, on a visité avec le préfet de région, pas plus tard qu'en début de semaine, dans le 20e arrondissement, un logement. La locataire était là depuis la construction, 62 ans d'occupation du même logement.
Effectivement.
Voilà, donc une très grande fidélité à la RIVP.
Jean-Marc Torollion, vos interlocuteurs, les bailleurs que vous pouvez côtoyer, les syndics, je pense que l'approche n'est pas la même que pour Serge Conta, c'est-à-dire que l'arrivée du diagnostic électrique obligatoire, notamment à la location, ça a été quelque chose de nouveau.
Ah, ça a été quelque chose de tout à fait nouveau, et ça a été quelque chose, en réalité, d'assez difficile à appréhender pour nous et pour l'ensemble de la filière. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que... Et vous l'avez souligné dans vos propos, c'est que on mélange ce qui est norme et aspect réglementaire. Et tout le monde utilise cette terminologie à tort et à travers, avec un effet assez anxiogène. C'est pas aux normes, c'est pas aux normes, c'est pas aux normes. En réalité, on est aux normes dès lors qu'on est aux normes de construction de la date d'achèvement de l'immeuble.
Tout à fait.
C'est ce qu'il voudrait dire en théorie qu'en 1923, si vous n'avez rien touché, vous êtes aux normes. On voit les limites du raisonnement. Donc ça, c'est un raisonnement, on va dire, juridique. Et puis, il y a quand même l'aspect, naturellement, sécurité et décence. Et en réalité, pour nous, le diagnostic électrique, il s'inscrit dans l'obligation de délivrance pour les bailleurs d'un logement décent. Et dans cette décence, il y a le fait qu'on ait des installations qui soient sécurisées. Et là, s'ouvre un champ, finalement, d'interprétation, malgré tout. Et cette interprétation, elle est gênante. Pourquoi ? Parce qu'on a dû, en tant que professionnel de l'immobilier, appréhender les retours de diagnostic. Il fallait déjà que les diagnostiqueurs l'appréhendent eux-mêmes. Il fallait qu'on ait un retour dans nos équipes de capacité de compréhension, une capacité de restitution à nos bailleurs qui soit simple et objective. Avec des questions toutes simples. Bon, enfin, il y a 5 ans, vous m'avez déjà fait refaire mon installation et vous m'expliquez qu'aujourd'hui, il faut que... Donc évidemment, c'est gênant. Il y a 10 ans, voilà. Et puis, le vrai problème aussi, c'est nos électriciens. Parce qu'en réalité, on a des électriciens qui sont, j'allais dire, peut-être plus compétents dans l'interprétation et qui nous offrent à ce moment-là une proposition de travaux qui est cohérente, je pense, avec un diagnostic. Et puis, vous avez des électriciens qui sont... mes amis électriciens vont pas être contents, mais c'est la réalité pratico-pratique du terrain.
Ça
prouve qu'il faut aussi de la formation partout. Des électriciens qui finalement, en dehors de tout refaire, n'ont pas de solution. Et nous, on doit faire avec ça, en ayant en ligne de mire la sécurité de nos clients, la bonne gestion vis-à-vis du propriétaire et des enjeux de coûts. Et donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Naturellement, je crois qu'on progresse aussi parce qu'avec, au fil du temps, les choses se rodent un petit peu. Sachant que, par rapport à la régie immobilière de la ville de Paris, le taux de rotation moyen dans le parc privé locatif, c'est de l'ordre de 23 à 25%, quand c'est pas 38%. Donc ça fait aussi un pic de gestion et un pic, j'allais dire, de prise de décision qui est important, avec un effet d'entonnoir qu'on connaît bien. Et qui dit effet d'entonnoir, dit effet prix qui est parfois... pas terrible. Donc, voilà. Ceci étant, je pense que tout cela s'inscrit dans un cadre global qui est cette législation technico-sanitaire qui, aujourd'hui, est assez complète. Et je pense que tout ça est aussi un petit peu inachevé, si vous me le permettez, parce que je pense que derrière cela, on doit demain avoir une vraie carte d'identité technico-sanitaire de chaque logement. J'ai remarqué que dans la loi Elan, qui vient de sortir définitivement, un observatoire des diagnostics avait été est mis en place. Je crois qu'on est, là aussi vers une évolution.
On avance, mais moi, ce que je serais tenté de penser, lorsque Serge Conta évoque le fait que l'arrivée du diagnostic électrique obligatoire, finalement, n'a pas perturbé leur fonctionnement, parce que dans le cadre de la gestion, ils se préoccupaient déjà de cela. Le fait d'établir un diagnostic électrique obligatoire, est-ce que ça ne peut pas être aussi perçu ou percevable comme un atout? C'est-à-dire que le bailleur a finalement un état des lieux de son installation électrique grâce à la mise en place de ce diagnostic électrique obligatoire. Et il peut donc, de ce fait, lorsqu'il y a de la rotation, une rotation fréquente, eh bien, voir ce qui relève éventuellement de dégradations qui auraient été amenées par l'occupant pendant sa période de location.
C'est très rare, la dégradation électrique. C'est très rare. Par contre, ou alors, lorsqu'on a dégradation, on a en fait un sous-équipement électrique. On peut avoir une installation aux normes et parfaitement ne pas correspondre à la réalité de l'équipement électrique de nos locataires. Quand vous prenez les appartements des années 60, où on avait un bout de prise dans une chambre, ou deux prises, même pas, dans une salle à manger, ça ne correspondait plus à la réalité d'équipement électrique. Et c'est là où on voyait les rallonges, vous voyez, avec 4-5 prises, et tout ça plugué. Alors là, effectivement, c'était quand même un peu chaud. Donc ça, c'est notre responsabilité aussi, dans le cadre du diagnostic, que de délivrer des installations qui soient à la fois normées, enfin j'allais dire sécurisées, prenons les bons mots, sécurisées et à la fois, j'allais dire, en phase avec l'époque à laquelle nous vivons. Voilà. Mais la dégradation électrique de la part du locataire...
Oui, voilà. C'est plus de l'amendement voilà. Sur l'installation, éventuellement.
Au début de ma carrière, j'ai connu les tabatières où on mettait un petit bout de papier aluminium derrière pour faire la jonction. Voilà. Mais je crois honnêtement que c'est révolu. Enfin, moi, je le constate pas.
Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
Dominique Desmoulins, une réaction par rapport à cela ?
Par rapport à tous ces diagnostics, je crois que vous avez complètement raison. Aujourd'hui, tous les processus sont mis en place. Et donc, il faut maintenant que ça donne des travaux ou que ça donne des fruits. C'est-à-dire que vous avez souligné la difficulté d'un électricien qui doit hésiter entre « je refais un ou deux points de sécurité » ou « je refais l'ensemble ». Et ce qui veut dire qu'en fait, il faudrait avoir un état des lieux. Alors, l'état des lieux qu'on a aujourd'hui, en tout cas sur les bailleurs, sur les propriétaires bailleurs, c'est qu'on a fait une étude sur 5000 diagnostics et on s'aperçoit que dans 2/3 des logements qui sont mis à location, il y a une anomalie électrique. Alors, anomalie, c'est un peu fort. Enfin, il y a un des points de sécurité pour lequel il y a un problème. Et donc, toute la difficulté, c'est d'avoir ce rapport pour que l'électricien fasse une correction ou 6 corrections. Et donc, en fait, il faudrait qu'il y ait, au-delà de ces diagnostics, un travail et des travaux juste limité à juste coût par rapport aux anomalies et non pas tout refaire. Sinon, on va rentrer dans quelque chose qui va forcément poser des difficultés. Alors,
Serge Conta, je vois que vous voulez intervenir. C'est peut-être aussi plus facile pour vous parce que quelque part, vous êtes malgré tout des sachants. Vous êtes à l'intermédiaire entre le bailleur et l'électricien, mais avec une notion de sachant parce que je rappellerai juste que lorsque les 6 exigences techniques sont réunies, le logement est considéré en sécurité. Si l'une d'entre elles, bien entendu, n'est pas réunie, et une seule d'entre elles n'est pas réunie, il y a un problème pour la sécurité globale. Néanmoins, vous abordez cela comment ? C'est-à-dire que Peut-être que vous avez cette vision un peu globale du bailleur sachant, qui fait que de mesurer là où il faut intervenir sur une problématique ou effectivement tout refaire lorsqu'il y a plusieurs problématiques qui sont difficiles à traiter point par point peut-être, et notamment un équilibre technico-économique.
Alors effectivement, la RVP c'est une grande maison, 60 000 logements, donc on a une direction technique structurée. Moi je voudrais un peu rassurer les bailleurs privés là sur... Dans mes précédentes fonctions, j'étais directeur général de l'ANA, donc c'est radicalement différent. C'est des bailleurs privés, souvent sont propriétaires de 1-2 logements, donc ils ne sont pas maîtres d'ouvrage professionnels. Donc très important pour eux que la vie leur soit facilitée, qu'ils aient de la visibilité sur les travaux, que les coûts aussi soient très raisonnables, puisque vous évoquiez là avec effectivement des... J'ai dû vous faire rêver avec mon taux de rotation de 4%, là. Et donc, mais au fond, ce que j'ai observé sur les diagnostics, là, un peu au fil de l'histoire, c'est qu'il y a effectivement, dans le démarrage, tout le monde, un petit peu, l'écosystème se cherche un peu, les diagnostiqueurs, tout ça, les savoir-faire mettent un petit peu de temps à se développer. Sur d'autres diagnostics aussi, on a aussi des sujets importants sur l'amiante, etc. Et au fond, au bout d'un certain délai, comment dire, ces diagnostics et les obligations qui peuvent en résulter, tout ça rentre un peu, rentre correctement en ordre de marche. Il me semble que sur l'immobilier, et la loi Elan d'ailleurs va dans ce sens, je vois ce qu'on est en train de faire nous en termes de numérisation complète de notre patrimoine, tout ça finira par se stabiliser et voilà, il y a cette phase qui est toujours une phase de critique un peu délicate. Donc je crois qu'il faut être optimiste, y compris sur les coûts. Alors, moi je vais en profiter d'ailleurs, c'est quand même... demander à nos électriciens qui vont nous écouter, il y a un petit sujet sur lequel on a du mal. Alors c'est pas un sujet technique parce que c'est une profession très technique qui aime son métier en plus, cette profession d'électricien. J'ai un peu du mal par contre à insérer des nouvelles installations dans des logements patrimoniaux. Voilà, souvent là, ça, c'est une approche un peu de technicien d'ingénieur, ça passe tout droit là, et en termes d'usage, de temps en temps, dans les parties communes, dans les appartements, c'est un peu difficile. Voilà, donc un petit peu plus de, comment dire, de sensualité dans ce monde d'ingénieur.
Dominique Desmoulins, je crois qu'il y a une mission qui va incomber à Promotelec sur ce sujet, peut-être.
Non, la sensualité, c'est toi, hein, je te laisse faire.
D'accord. Jean-Marc Torollion, on voit que l'approche, elle est différente malgré tout sur le parc privé, notamment avec les acteurs membres de la FNIM, peut-être un besoin finalement de monter en connaissance sur cela pour avoir ce rôle un petit peu de modérateur ou d'équilibre dans l'exigence technique et puis la prise de conscience du bailleur sur les contenus.
Oui, d'un point de vue général, notre profession, elle est, je pense, mature en matière commerciale, mature en matière juridique, et la capacité technique, c'est quelque chose qui est pas évident, puisque c'est pas, j'allais dire, le cœur même de notre formation pour accéder à nos métiers. Et aussi bien pour les syndics que pour les gestionnaires, ça va devenir un enjeu. Ça va devenir un enjeu dans d'autres domaines, le domaine énergétique, mais ça devient un enjeu également en matière technique. Et la qualité de ce travail est déterminante parce que on s'aperçoit que nos clients propriétaires, en réalité, attendent de nous ce filtre technique pour que nous soyons en capacité de faire, d'avoir la bonne gestion, la meilleure gestion possible, à la fois à l'instant, mais à la fois qui préserve l'avenir du logement. C'est-à-dire qu'on fait des travaux pour que demain, si notre propriétaire qui louait veut vendre, le même diagnostic corresponde et qu'il n'y ait pas là encore quelque chose à redire. Donc c'est un enjeu.
C'est un enjeu, je pense, et Dominique Desmoulins, vous ne me contredirez pas, j'imagine, qui fait que nous allons nous retrouver aussi sur le terrain, au-delà de ce plateau, Promotelec, les acteurs du logement social et puis la FNIM. Je crois qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble pour avancer sur ce sujet.
Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
On arrive au terme de cette émission. Alors, Dominique Desmoulins, en guise de conclusion.
Alors, ce n'est pas une conclusion facile parce qu'on voit bien que les problématiques, même si elles sont identiques techniquement, on n'a pas affaire au même type de logement entre la RIVP et la FNAIM, forcément. Et donc, on a en fait abordé un problème avec une rotation de locataires qui est complètement différente. Et donc, ça veut dire que la manière d'aborder le problème, la manière de sensibiliser l'ensemble des syndics en particulier et puis des bailleurs n'est pas du tout la même. Donc, il y a une approche globale à faire et qui est complètement différente psychologiquement. Psychologiquement, le terme est un peu fort. Mais pour finalement bien les sensibiliser aux vrais enjeux, parce qu'entre 3% de rotation ou 4% et 25% ou 30%, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux, ni sur les mêmes efforts de pédagogie à faire. Donc même si tous les systèmes existent aujourd'hui, je crois qu'il y a un gros effort de pédagogie et de formation à continuer à poursuivre.
Et ce qui peut amener tout le monde, finalement, animer tout le monde, pardon, c'est la notion de juste travaux.
Exactement, c'est-à-dire les travaux qui mettent en sécurité.
Les bons, au bon moment, ni trop, ni trop peu. Voilà. Merci à tous.
Le confort dans l'habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Immo et sur le site promotelec.com.